Métaphysique, Père Philippe, 17 décembre 1982, Rimont.
Question pour la métaphysique. Jolie question. Comment philosophiquement peut-on mourir? Comment une blessure physique peut-elle entraîner la séparation de l'âme et du corps? L'âme immortelle est en forme du corps. Il y a un maillon qui m'échappe. Oui, oui. Que voulez-vous? C'est de l'ordre de la disposition, le maillon. C'est une question plus de philosophie du vivant, du reste. Hein, c'est la mort. Point de vue métaphysique, on ne parle pas de la mort. La mort n'est pas au niveau métaphysique. Il n'y a pas de mort. Il y aurait la néantisation au niveau métaphysique. La néantisation, mais pas la mort. La mort est au niveau philosophique du vivant. C'est séparation de l'âme et du corps. Alors, comment se fait cette séparation substantielle alors que de fait la blessure est accidentelle? Donc, c'est très bien la question. Comment l'accident peut-il atteindre la substance? Comment dit-on ça? Comment l'accident peut-il atteindre la substance? Tout accident d'ordre de la violence, et on n'atteint qu'une chose accidentelle, c'est évident. En blessant, même une blessure dite mortelle. C'est pour ça qu'on dit une blessure mortelle. Une blessure mortelle, ça veut dire une blessure qui conduit à la mort. Une blessure qui engendre la mort. Donc une blessure qui va avoir accidentellement une conséquence jusqu'à la substance. Ça, c'est un très très gros problème. Ce serait la même chose, voyez, par rapport aux transformations physiques, dans quelle mesure les transformations physiques peuvent-elles atteindre la matière substantielle? Comment les mutations qu'on peut arriver, l'énergie nucléaire, la désagrégation de l'atome, des choses comme ça, jusqu'où on atteint? Est-ce qu'on touche l'aspect substantiel? Est-ce qu'on est en train de désagréger notre univers, autrement dit, et donc arriver à la mort de l'univers? Ou est-ce que non, on ne peut pas arriver à dire qu'on touche la mort de l'univers? La mort de l'univers serait la séparation, vous voyez, non pas de l'âme et du corps, puisque l'univers n'est pas un vivant, mais ce serait la séparation de la phusis nature et la phusis forme. Alors, toutes les transformations sont au niveau accidentel. C'est ça l'intérêt des accidents, ce que nous allons voir maintenant. Donc on va répondre à cette question au terme. Donc c'est bien pour commencer, poser la question de cette manière-là. Jusqu'où pouvons-nous, dans l'ordre de la situation limite de notre univers et de la situation limite de l'homme? Parce que la situation limite, c'est justement toucher à l'organisation accidentelle pour que cette désorganisation accidentelle arrive à séparer ce qui est uni substantiellement. Alors, vous allez voir. Nous avons donc essayé de découvrir ce que c'est que la substance, l'ousia, principe radical de ce qui est. Et quand je dis l'ousia, principe radical de ce qui est, c'est l'intelligence seule qui saisit l'ousia. Je n'ai pas l'expérience de l'ousia. J'ai l'expérience de la présence de l'âme en moi, nous l'avons vu, mais je n'ai pas l'expérience de l'ousia. Il faudrait une expérience métaphysique. Nous n'avons pas d'expérience métaphysique. C'est ça la difficulté. C'est pour ça que la métaphysique échappe à la description et puis tandis que j'ai une expérience de l'âme, alors je pourrais encore faire un traité du vivant d'une certaine manière, à un certain niveau d'expérience, vous voyez, un niveau descriptif. Tandis que l'ousia, j'ai aucune expérience de l'ousia. Si vous me disiez que vous aviez l'expérience de l'ousia, vous direz c'est dangereux. Parce que vous avez atteint sans doute un sommet très très particulier à ce moment-là, d'avoir atteint l'expérience de l'ousia. Tandis que vous l'atteignez par le nous. C'est le domaine propre du nous. Et c'est ça qui est si difficile. Vous comprenez, quand vous êtes en face des psychanalystes ou des psychologues qui vous disent « Est-ce que vraiment vous atteignez un principe ? Prouvez-moi que vous atteignez un principe. » Vous ne pouvez pas le prouver. Alors, on peut dire seulement, si vous êtes intelligent, vous comprenez. Mais si vous manquez d'intelligence, vous ne comprenez pas. Alors ça, c'est une réponse un peu injurieuse, mais c'est une réponse quand même à demi-même, n'est-ce pas ? Et qui est quand même utile de temps en temps de faire. Si vous êtes intelligent, vous comprenez qu'en effet, il y a un arché. Seuls les êtres intelligents saisissent un principe. C'est le propre de l'intelligence de saisir le principe. Et un principe dans l'ordre de l'être, c'est justement l'ousia. Et seule l'intelligence saisit l'ousia. Ça, c'est très très important. Donc, n'essayez pas de vous représenter l'ousia. Ça ne peut pas être représentable. C'est simplement l'intelligence qui saisit. L'intelligence creuse pour saisir l'ousia. Et quand elle saisit l'ousia, elle voit que l'ousia, elle est radicale, elle est source. Tout arché est source. C'est un principe indivisible, il ne peut pas aller au-delà. Dans l'ordre de la détermination. Dans l'ordre de la détermination, c'est-à-dire dans l'ordre des formes, je saisis l'ousia comme source de toutes ces formes. Et une fois que j'ai atteint l'ousia, je rebondis. C'est ça qui est extraordinaire. Je rebondis et je vois que cette ousia qui est source, source cachée, invisible, que seule l'intelligence saisit, l'intelligence est capable d'atteindre quelque chose d'invisible. Vous voyez, c'est pour ça que dès qu'on saisit un principe, on ne peut plus être positiviste. C'est la seule manière d'éviter le positivisme, c'est d'atteindre un principe. C'est pour ça que l'Église maintient la philosophie et la métaphysique, pour éviter le positivisme. Parce que si vous allez jusqu'au bout du positivisme, il n'y a plus possibilité de parler de la grâce. Il n'y a plus possibilité de poser la grâce. C'est la grande raison pour laquelle, de fait, l'Église maintient et veut maintenir à tout prix une philosophie. Autrement, vous devenez positiviste, c'est-à-dire vous ne reconnaissez comme réalité que ce qui est mesurable. Et uniquement ça. Et vous n'arrivez plus à saisir que l'intelligence est capable de saisir quelque chose d'indivisible, quelque chose d'invisible. Mon âme est invisible, je ne la verrai jamais mon âme. Elle est invisible. Alors la négation de l'âme, et on fera de l'homme uniquement un animal supérieur, un peu plus complexe que les autres, n'est-ce pas ? Un animal supérieur qui a en lui un petit ordinateur extrêmement bien construit et qui lui permet d'enregistrer des tas de choses. Et plus ou moins bien construit, suivant vous enregistrez plus ou moins. Et alors là, à ce moment-là, vous pourrez graduer l'intelligence des hommes selon la manière dont ils sont capables d'enregistrer. Sans jugement, uniquement enregistrer et répéter. Alors, l'arché est invisible, source invisible. Une fois que vous touchez l'arché, immédiatement, vous revenez à ce fait que cette arché, l'ousia, est source de toutes les déterminations. Et vous comprenez alors ici toutes les autres déterminations. L'ousia est immanente à la réalité existante, donc à l'homme. Et donc l'ousia est présente dans toutes les déterminations. C'est ça qu'il faut saisir. L'intelligence sépare l'ousia de toutes les déterminations secondes, toutes les déterminations qui apparaissent. Tout ce qui apparaît, toute détermination qui apparaît, toute forme. Une fois que j'ai saisi l'ousia, que j'ai dépassé toutes ces déterminations, je reviens à ces déterminations, parce que ces déterminations expriment, manifestent l'ousia. L'ousia est présente, l'ousia n'a pas de lieu. C'est évident qu'elle n'a pas de lieu. Autrement, vous pouvez vous la représenter. Donc elle n'a pas de lieu, c'est un principe, c'est indivisible. Donc l'ousia est présente dans toutes les déterminations secondaires. Et donc, pour bien saisir le contenu et la richesse de l'ousia, je reviens à toutes ces déterminations secondaires. C'est ça qui est important à voir. Parce que c'est ce que je connais en premier lieu, ça c'est le visible. C'est le visible. Tandis qu'ici, je suis en face de l'invisible. Et l'arché est invisible, et toutes les déterminations secondes sont visibles. C'est quelque chose qui apparaît. Mais l'invisible est présent dans le visible, tandis que le visible n'est pas présent dans l'invisible. C'est ça qu'il faut toujours se dire. Alors là, vous comprenez la relation entre visible et invisible. parce que c'est vrai que l'invisible est présent dans le visible, puisque l'ousia est présent dans toutes les déterminations secondaires, alors que les déterminations secondaires sont dépassées pour découvrir l'ousia. Donc l'ousia arché a son autonomie, mais une autonomie intelligible, intelligibilité. Cette autonomie d'intelligibilité de l'ousia fait que l'ousia ne peut pas exister sans toutes les déterminations secondaires. L'ousia n'existe pas indépendamment de ces déterminations secondaires. C'est comme ça que les temps que j'analyse, les temps, c'est-à-dire moi-même, j'analyse en moi toute cette multiplicité de déterminations, je découvre l'ousia et je reviens à ces déterminations. Nous allons donc étudier successivement la relation, la qualité et la quantité. Et trois grandes déterminations. On pourrait étudier les autres, hein, parce qu'il y en a neuf autres, hein, n'oubliez jamais. Il y en a neuf. Si j'étudie par rapport à l'homme. Mais je vais étudier les trois premières, c'est suffisant. Vous pourriez continuer, faire la métaphysique du temps, faire la métaphysique du lieu. Ça peut se faire, c'est pas du tout impossible. Toutes les modalités de l'être peuvent être étudiées au niveau de la métaphysique, dans la lumière de l'ousia. Mais comment l'ousia est présente dedans, et comment chacune va manifester quelque chose de l'être, donc quelque chose de l'ousia. Alors, nous n'avons pas le temps de faire pour les neuf, je prends les trois. Je commence par la relation. Normalement, je devrais commencer par la qualité. Mais je commence par la relation. Pour cette raison très simple, vous allez saisir, j'espère, que de fait, au cours de l'histoire de notre philosophie occidentale, l'ousia s'est perdue. Quand Heidegger parle de l'oubli de l'être, il ferait mieux de dire l'oubli d'ousia. C'est l'ousia qui a été oublié. L'ousia a été oublié parce que d'abord on a identifié l'ousia avec le sujet. Identifier l'arché avec le sujet, c'est le positivisme. C'est le positivisme dans ce qu'il y a le plus gros. Un sujet, ça se voit et ça se mesure. Alors que l'arché, c'est un principe. L'arché est au-dessus, le principe est au-dessus du sujet. Or, qu'est-ce qu'on a fait? La scolastique a fait ça, hein, ça c'est pour le reconnaître. La scolastique a identifié l'ousia avec le sujet. Regardez les bons manuels thomistes. Vous voyez que dans les bons manuels thomistes, on identifie ousia et sujet. Et en faisant cela, on ne s'aperçoit pas qu'on est sous l'influence positiviste. Donc on matérialise un principe, on le ramène à un sujet. Le sujet a une primauté, c'est bien, c'est évident, il y a une parenté entre le sujet et l'arché, il y a une parenté entre les deux. Puisque l'arché, c'est le principe au sens absolu. Le sujet, c'est principe, c'est le premier dans l'ordre de l'attribution, dans l'ordre logique. Alors on fait de la logique la philosophie. Et ça, c'est le positivisme. Le positivisme consiste à faire de la philosophie, de la pensée philosophique, une pensée logique. Alors, on ramène ça. Une fois, donc, on saisit que l'ousia comme tel a été transformé en sujet, petit à petit, puisqu'on a vu que l'ousia était sujet, le sujet, c'est quelque chose d'indéterminé, c'est donc quelque chose qui ne peut être connu que par ses attributs. C'est donc un X. Quelque chose d'inconnaissable. Si c'est un X, quelque chose d'inconnaissable, on va le rejeter. Ça n'a aucun intérêt. Et c'est pour ça que progressivement, on a supprimé l'ousia au nom des attributs. Vous voyez comment ça a joué? C'est intéressant à voir ça. Comment, de fait, on a fait que d'abord, l'ousia a été identifié au sujet, positivisme, puis une fois que l'ousia a été transformé en sujet, on a dit, le sujet, c'est quelque chose d'indéterminé qui n'est connu que par ses attributs. C'est vrai. Pierre n'est connu que par ses attributs. Pierre en lui-même est inconnu. C'est un sujet qui reçoit tous ses attributs. Pierre, c'est parce qu'il est intelligent, parce qu'il est bon, parce qu'il est... Vous voyez, toutes les fonctions. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on réduit la personne à ses fonctions. Cette personne, elle a telle ou telle fonction. Alors, on ramène ses attributs, tout simplement. Et le sujet fondamental, il est l'inconnu. Alors, parce qu'il est l'inconnu, parce que si c'est fixe, on va le supprimer. Ça n'a aucun intérêt. Et alors, on a supprimé progressivement l'intérêt de la substance. Et chez Hamelin, alors le néo-hegelianiste d'Hamelin, un mathématicien, et Hamelin, c'est intéressant de lire Hamelin, hein, parce que Hamelin dit avec, en termes très clairs, tout le point de vue de l'hegelianisme, qui n'est pas toujours très clair. Tandis que dans Hamelin, c'est une très grande clarté. Alors vous avez Hamelin, le philosophe de la relation. C'est pour ça que nous sommes en présence de deux types de philosophie. La philosophie qui dit que le principe de l'être, c'est l'ousia, et la philosophie néo-hegélienne qui dit que la substance, c'est supprimé. Hegel parle encore de la substantialité. Le vieux reste de la substance reste dans la substantialité. Hegel ne parle pas de substance, mais de la substantialité. Et dans la substantialité, la substance joue un rôle de médiation. Hamelin supprime la substantialité, il a raison, parce que la substantialité n'a pas de sens sans la substance. L'abstrait n'a pas de sens sans le concret. Alors Hamelin, qui est très logique, qui est très matheux, il a un sens très très profond de la clarté logique, il supprime la substantialité hegelienne et dit qu'en réalité, il n'y a plus que la relation. Et il identifie la personne et la relation. Et vous avez Merleau-Ponty qui, sans le savoir, dira tout simplement que l'être, c'est un tissu de relations. Alors, c'est intéressant, parce que ça, il le dit textuellement, Merleau-Ponty dira, l'être, c'est un tissu de relations. Donc, vous mettez au cœur de l'être, non plus la substance, mais la relation. Alors, ça, c'est très très important à bien saisir, parce que là, on est en présence de deux philosophies, peut-être les deux seules, en réalité. Deux philosophies, l'une de la substance, l'autre de la relation. Alors, je crois qu'il faut y réfléchir là-dessus, parce que on essaie de faire une philosophie qui doit nous faire comprendre comment cette philosophie de la relation doit nous aider à comprendre les autres philosophies. La philosophie de la relation, c'est-à-dire le primat de la relation, sans substance, la substance est rejetée. Cette philosophie de la relation nécessairement montre le primat du sujet connaissant sur l'objet. Tandis qu'au contraire, la philosophie de la substance montre le primat de ce qui est sur la connaissance. Intéressant à bien préciser ça aussi, et à bien saisir, parce que là nous trouvons là quelque chose qui sont comme deux grands axes de pensée au point de vue philosophique. L'axe de pensée, la substance, l'axe de pensée, la relation. Alors, si je mets comme Merleau-Ponty, hein, que l'être est un tissu de relations, Hamelin ne le dit pas, mais il dira que la personne, qui est l'être par excellence, est une relation. Donc, pour lui, on peut dire que le noyau de l'être, c'est la relation, pour Hamelin. Et pour Merleau-Ponty aussi. Donc, on est tout proche, là. Hein. Merleau-Ponty, c'est pas vieux, ce sont nos contemporains. Pour Heidegger, l'être n'est pas relation. Et Heidegger essaiera de lutter contre ça. Nous verrons comprendre qu'est-ce que c'est que l'être pour Heidegger. Mais ici, c'est net que cette perspective de ramener l'être à la relation va de fait proclamer que c'est l'intelligence connaissante qui est première. Parce que du côté de la connaissance, la relation constitue la connaissance. La connaissance comme telle est une relation au sens très très fort. L'intentionnalité, le domaine de la connaissance est le domaine de l'intentionnalité, des formes intentionnelles, c'est la relation. Donc si je mets la relation comme au cœur de l'être, je ne dépasserai pas l'intentionnalité. Je demeurerai dans l'intentionnalité. L'intentionnalité reste une relation. Ça, il faut le Ici, je fais un aspect critique, hein, c'est forcé, je fais un aspect critique. C'est pour essayer de comprendre cet aspect important de Hamelin de Merleau-Ponty, parce que nous sommes là en présence de philosophes qui ont philosophié avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'attention, et qui sont persuadés que c'est ça la vérité. Hein. Il ne faut pas du tout les mépriser, il faut les regarder avec intérêt. Il faut voir comment, de fait, on aboutit à mettre le primat de l'être dans la relation. Je dis, si on met le primat de l'être dans la relation, eh bien, on aboutit nécessairement, ou si vous voulez, pour affirmer que l'être est relation, ça prouve que l'intelligence se considère comme mesure de la réalité. Alors que si je mets la substance première, je considère que la réalité est mesure de l'intelligence. Donc il y a là deux philosophies diamétralement opposées. Et c'est vrai, c'est les deux philosophies les plus diamétralement opposées. Au fond, toutes les autres philosophies sont intermédiaires entre les deux. Ce sont des coupes mal taillées entre les deux. C'est vrai? Si on a un sens philosophique, on veut toujours aller à l'extrême. C'est le propre de la philosophie. D'aller philosophie première. Donc on va à l'extrême, on pousse jusqu'au bout. Eh bien, je crois que de fait, on aboutit à deux solutions, ou la philosophie de Lousia, ou la philosophie de la relation. Faites vos choix. C'est intéressant à voir. Alors j'avertis que lorsqu'il s'agit de mettre le primat sur la relation, vous mettez le primat de l'intelligence sur ce qui est. Si vous affirmez la substance, vous mettez le primat sur ce qui est par rapport à l'intelligence. C'est une autre façon de le regarder. Deuxièmement, je précise, puisque nous sommes là en face de deux philosophies, et c'est important de bien voir ça, deux métaphysiques, si vous voulez. C'est important de voir que la philosophie qui met le primat sur la substance ne néglige pas la relation. La philosophie qui met le primat sur la relation rejette la substance. Ça, c'est une autre manière de voir la supériorité de la philosophie de la substance sur la philosophie de la relation. C'est toujours du côté de l'extension qu'on comprend le plus facilement la supériorité d'une chose sur une autre. Quand une connaissance peut inclure une autre connaissance, ça prouve qu'elle a une plus grande profondeur que lorsqu'elle l'exclut. C'est le propre du domaine de l'intelligence. Si vous avez une capacité plus grande d'assimiler l'autre, ça prouve que vous allez plus loin que celui qui ne l'assimile pas et qui le rejette. On dit ça au point de vue de l'estomac, c'est évident. Celui qui peut manger plus de choses qu'un autre, il a un estomac de bois. Tandis que celui qui mange très peu de choses, il a un petit régime. Ah, attention, ça va s'amenuiser. Dans 10 ans, votre régime, qu'est-ce qu'il sera? Faites attention. Quand vous avez 25 ans, vous avez déjà un régime. À 70 ans, qu'est-ce que ce sera? Vous aurez un régime, vous ne pourrez plus prendre que très peu de choses. Parce que ça s'amenuise. Vous voyez, on voit très bien l'extension et la compréhension qui vont ensemble. Et c'est toujours intéressant de comparer ça. Une philosophie de la substance assume la philosophie de la relation. La philosophie de la relation n'assume pas la substance et la rejette. Pourquoi? Parce que d'un côté, le primat de l'être permet à l'intelligence de se développer, alors que le primat de l'intelligence mesure l'être. Il faut saisir ça. Alors, une fois qu'on a saisi ce point de vue-là, troisième petite remarque, c'est important, pour saisir l'importance de la philosophie de la relation. C'est quelque chose, c'est une clé, c'est très curieux, c'est une clé, la philosophie de la relation. Une fois que j'ai fait la philosophie de Lousia, je fais tout de suite la philosophie de la relation, parce qu'on est tout de suite dans deux extrêmes. Troisième petite remarque, il y a quelque chose aussi de très important dans la philosophie de la relation, c'est que vous voyez que la philosophie de la relation va pouvoir faire le lien entre ce qu'on appelle une philosophie réaliste et une philosophie idéaliste. C'est un pont. La relation permet de faire un pont. Pourquoi? Parce que nous allons voir que nous allons parler d'une relation de raison et d'une relation réelle. Donc c'est intéressant de voir qu'à l'intérieur de la relation, je vais pouvoir comprendre ce que l'intelligence est capable de faire, de réaliser. L'intelligence peut réaliser une relation de raison. Ça ne vous dit pas grand-chose actuellement, une relation de raison, mais vous allez le comprendre. Je note ça au point de départ. Hein. Tandis que vous ne pouvez pas parler d'une substance de raison. Vous pouvez parler d'une relation de raison. Et on en a parlé. Évidemment, c'est le propre de saint Thomas d'avoir parlé d'une relation de raison. Ça, je suis d'accord. Saint Thomas est le premier, peut-être, à avoir parlé d'une relation de raison de cette manière. Aristote n'en a pas parlé. Mais saint Thomas en a parlé. Et c'est intéressant de parler d'une relation de raison. Voir qu'à l'intérieur de la relation, je peux faire cette division entre relation réelle et relation de raison. Ceci, c'est pour vous montrer l'importance. Hein. Petite introduction que je fais par rapport à la philosophie de la relation, parce que c'est très important de bien saisir ce point de vue-là. Alors, entrons tout de suite dans cette philosophie de la relation. Oui.
Est-ce qu'on peut arriver justement dans la philosophie de la relation à avoir une relation une?
Non, la relation n'est jamais une, elle est toujours dyade.
Est-ce qu'on arrive à une unité de relation?
La relation est toujours dualité. Même votre relation d'identité par rapport à vous-même. Quand vous dites « je suis identique à moi-même », vous savez ceux qui cherchent leur identité, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas ? Ils cherchent son identité. Enfin, cherchez bien, vous ne la trouverez jamais. Au coin du bois, vous la trouverez, mais on ne trouve pas son identité. Parce que le propre de l'identité, c'est de se forger à soi-même une dualité. Une relation d'identité, c'est une dualité. Toute relation implique une dualité. Il n'y a pas d'unité dans la relation, c'est le propre de la relation, c'est juste ça. Il y a une unité dans la substance. La substance est principe. La relation n'est pas principe. Là, vous le soyez tout de suite. La relation n'est pas principe. Donc, la relation comme telle n'implique jamais, ça nous allons le voir progressivement, je le dis maintenant tout de suite parce que pour répondre à votre question, venez. Mais la relation tout de suite va nous mettre dans le multiple. Tout de suite. Dans le multiple. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que toute philosophie dialectique demeure dans le multiple. Il n'y a plus de problème de vérité, il n'y a qu'un problème de sincérité. Ah, ça, il faut saisir, ça, c'est très important et c'est très intéressant de voir ça. Voir que la relation, il n'y a pas d'unité dans la relation. C'est pour ça que le problème de l'identité est un faux problème. Chercher son identité, va, cherche. Tu trouveras au coin du bois que tu es identique à toi-même quand tu trouveras ton spectre. Alors à ce moment-là, tu te trouveras identique à toi-même, mais tu ne peux pas trouver d'identité. Vous trouvez au contraire que votre âme est principe d'unité en vous. Nous n'avons qu'une âme qu'il faut sauver. Vous savez, le cantique, quand il dit, nous n'avons qu'une relation qu'il faut sauver. Ça, c'est extraordinaire. Non, on ne peut pas. Les relations sont multiples. On va essayer de le comprendre, ça, parce que c'est très important. Vous voyez, ce petit, c'est pour ça que je mets un petit chapeau de cette philosophie de la relation à l'intérieur de la métaphysique. Nous faisons la philosophie de la substance et la philosophie de la relation. Parce que de fait, on voit Hamelin, Merleau-Ponty, qui sont des philosophies de la relation. Le premier Merleau-Ponty, pas le second. Le premier Merleau-Ponty, il y a deux Merleau-Ponty, vous savez bien. Et il est mort avant de le conclure lui-même. Mais il y a deux Merleau-Ponty, parce que Merleau-Ponty, à la fin de sa vie, comprend qu'il faut dépasser la relation, qu'il faut dépasser la phénoménologie, parce que la phénoménologie demeure dans l'intentionnalité et donc demeure dans la relation, et qu'il faut redécouvrir l'être sauvage. C'est très très curieux. C'est le Merleau-Ponty, je crois, converti par Heidegger, qui comprend que Heidegger, au fond, dépasse le point de vue de la relation et qu'il faut découvrir autre chose. Et alors c'est pour ça que le dernier Merleau-Ponty, c'est le Merleau-Ponty de l'être sauvage. Et il essaiera de découvrir l'être sauvage. L'être sauvage, c'est découvrir justement ce qui est au-delà de l'intentionnalité. Parce que l'intentionnalité, c'est la culture. Et c'est pour ça qu'il dit l'être sauvage. L'intentionnalité, c'est la culture, c'est vrai. La culture, c'est un tissu d'intentionnalité. Si vous cherchez ce que c'est que la culture. C'est pas la substance, la culture. C'est un tissu d'intentionnalité. Un tissu extrêmement bien fait, avec des formes multiples et diverses, mais c'est un tissu d'intentionnalité. Et vous êtes dedans. Ce que mon filet prend, je l'appelle poisson. N'est-ce pas ? Alors, la culture, c'est le filet qui prend le poisson. Quand vous êtes en dehors de la culture, vous êtes le sauvage. C'est évident. Le sauvage, il n'est pas dans la culture. Alors, c'est l'être sauvage. qui est en dehors de l'intentionnalité. C'est très joli, du reste, comme expression. Et c'est très, très, très vrai de voir ça. C'est qu'il a très bien saisi que la culture, c'est l'intentionnalité. C'est le tissu d'intentionnalité. Alors, il avait identifié l'être et la culture. Il découvre qu'il y a autre chose. Et qu'il faut découvrir autre chose. Qu'il faut découvrir l'être sauvage. Celui qui n'est pas abîmé. Oui, le paysage vierge, l'être vierge qui n'est pas abîmé par la culture. Et qui reste, justement, complètement lui-même. Au-delà de ce filet terrible qu'est la culture, dans laquelle on enferme toute chose. Alors, maintenant, entrons dans la philosophie de la relation. C'est important. Dans la philosophie de la relation, il faudrait, étant donné l'importance de cette philosophie de la relation, il faudrait regarder ce qu'Aristote nous, ce que Platon nous dit du relatif. Platon est le premier à parler du relatif. Il en parle beaucoup. Il y a toute une philosophie de la relation chez Platon. On pourrait se demander si, au fond, Platon n'identifie pas ousia et relation. Ce serait intéressant. Pour ceux qui s'intéressent à Platon, c'est une très belle question et une très belle manière de regarder Platon. Je crois que Platon identifie... via et relation. Et vous allez tout de suite comprendre, parce que pour lui, l'ousia, c'est l'être, et l'être, c'est l'intelligibilité de l'être. Il identifie intelligibilité de l'être et l'être. Or, l'être est multiple. Il est dans la dyade. Et c'est pour ça qu'au-delà de l'être, il y a l'un. L'un qui n'est pas ousia. Il y a le bien qui n'est pas ousia. L'un et le bien sont au-delà de la substance. Et le point de vue de la substance, c'est au niveau de la multiplicité des êtres. C'est la multiplicité des formes. Donc il identifie forme et être. Il identifie, par le fait même, la multiplicité des êtres intelligibles et l'ousia. Je peux dire que pour Platon, il y a identification entre ousia et relation. Très intéressant de voir cela au point de vue platonisme. Au fond, Platon serait le... Ou si vous voulez, hein, disons plus exactement, c'est plus juste de dire ça. Disons que Platon parle de la relation, du relatif. Platon parle de l'ousia, mais il confond les deux. Il y a un manque de distinction, c'est ça qui est plus juste à dire, il y a un manque de distinction chez Platon entre l'ousia et le relatif. Et c'est pour ça que pour Platon, il faut dépasser l'être pour atteindre l'un.
Oui. La participation, c'est toujours la relation.
Exactement. C'est la conclusion immédiate. C'est que la participation s'identifie avec la forme et que la participation, on est au niveau justement du point de vue relatif. Oui. C'est que dès que vous identifiez ousia, dès que vous confondez ousia et relation, vous êtes pour la participation. Et tous ceux qui mettent la participation comme quelque chose de tout à fait fondamental, ça prouve qu'il y a un manque de distinction entre l'ousia et la relation. Donc ça, c'est la première position de Platon. Aristote va être le premier philosophe, il faut le reconnaître, le premier philosophe qui, dans les catégories, et c'est bien dans les catégories, le premier lieu, Aristote est le premier philosophe qui, dans les catégories, va distinguer ousia et relatif. Et Aristote va nous montrer, dans les catégories, ceux qui lisent les catégories, je vous ai déjà dit, il faut lire les catégories, hein, assez vite. Il y a deux livres qu'on peut lire d'Aristote assez vite, les catégories et l'éthique. Les catégories, c'est une propédeutique. Il faut lire les catégories, il faut les lire avec intelligence, la plume à la main, et puis essayer de se faire à soi-même son petit tableau des catégories d'Aristote. C'est lisible, les catégories d'Aristote. Puis c'est un livre qui a été tellement discuté, qui est discuté tout le temps, qui est encore aujourd'hui discuté, n'est-ce pas ? Enfin, les catégories d'Aristote, c'est quand même un livre majeur. On doit avoir lu les catégories d'Aristote. Donc, dans les catégories d'Aristote, on voit que l'ousia joue le rôle primordial, nous l'avons vu. Ousia première, ousia seconde. Et quand Aristote dit Ousia première et Ousia seconde, Aristote montre que l'Ousia est au-delà de la relation, parce que l'Ousia est sujet, et c'est ce à quoi tout est attribué. Tandis que la relation, pour Aristote, c'est toujours un être double. C'est la moitié qui se prend toujours relatif à autre chose. Quand vous dites que ceci est la moitié d'un autre, si la tarte est toute petite, la moitié de la tarte, c'est pas fameux. Si la tarte est très grande, la moitié de la tarte, ça vaut la peine. Hein? Réfléchir, quoi, c'est très simple.
Une toute petite tarte coupée en deux, une tarte énorme, n'est-ce pas? Alors, coupée en deux, c'est quand même quelque chose d'énorme. Vous voyez, la moitié, c'est relatif. Donc, le relatif ne dit rien de la quantité. Ne dit rien de la qualité. Le relatif est en dehors de la quantité de la relation. C'est très, et de la qualité. C'est extrêmement curieux. Première constatation d'Aristote. Le relatif comme tel, il est relatif à un autre. La diade. C'est jamais simple. Toujours relatif à quelque chose d'autre. Je suis semblable à mon voisin. Du moins, aujourd'hui, puisque je suis assis à côté de quelqu'un. Je suis semblable à mon voisin. Or, mon voisin est très intelligent, donc, puisque je suis semblable à lui, je suis très intelligent. N'est-ce pas? Mais si j'ai un idiot à côté de moi, ça n'existe pas ici, mais si j'ai un idiot à côté de moi, je suis semblable à lui, donc je suis moi un idiot. Vous voyez que la similitude ne sert rien à rien. Je suis égal à celui qui pèse 110 kilos. Bon, 110 kilos. Mais si je suis égal à celui qui pèse 60 kilos, mais 60 kilos. Oui, la relation, c'est très curieux. C'est la première constatation qu'a fait Aristote. Le relatif, c'est un être qui est tout entier dépendant d'un autre. Je suis toujours dépendant d'un autre. C'est pour ça que c'est jamais simple. Le relatif comme tel n'est jamais simple. Et le relatif comme tel est au-delà de l'aspect qualité-quantité. On est relatif à. Première constatation. Aristote saisit ça tout de suite. Et puis, il fait une autre constatation que si je réfléchis, le relatif a quand même un être. Alors, qu'est-ce que c'est que l'être du relatif? Puisqu'il fait partie des catégories. Si le relatif fait partie des catégories, il a donc une forme en soi. Alors, il est à la fois tout entier relatif à un autre, et il a une forme en soi. Comment ça peut se faire, ça? Oui. Comme si la relation était au-delà du principe de non-contradiction. Il y a un petit quelque chose là qui est très intéressant à saisir. C'est vrai, il a un être en lui-même, le relatif. C'est pas rien. C'est pas rien. Et pourtant, il est totalement dépendant d'un autre. Et il a un être en soi. Alors, qu'est-ce que c'est que cet être du relatif? C'était la grande question d'Aristote. Qu'est-ce que c'est que l'être? Et alors, c'est pour ça qu'il dira dans les topiques que l'être du relatif, c'est l'être le plus débile. Il a un être, mais il est très débile. Pourquoi? Parce qu'il est tout entier appuyé sur un autre. Alors, c'est un être débile. Un être débile, c'est un être qui ne peut pas se tenir par lui-même. La débilité de l'intelligence fait qu'on est tout entier relatif à un autre. Tout le temps, on pense en fonction d'un autre. Ça, c'est la débilité. Il n'y a pas de débilité du cœur, vous voyez, c'est très curieux. Hein. Parce que quand on aime, on est relatif à un autre, c'est pas d'être débile. Tandis que c'est débile du côté de l'intelligence. Quand vous ne pensez qu'en fonction d'un autre, puisque l'autorité, vous savez bien, c'est la dernière des raisons. Donc c'est la débilité de l'intelligence. De penser toujours en fonction d'un autre. Alors, Aristote dit que l'être relatif, c'est l'être le plus débile. C'est un être qui n'a pas de consistance en lui-même. C'est juste l'inverse de la substance. La substance, c'est l'être qui se tient par lui-même. Et le relatif, c'est l'être qui ne se tient pas par lui-même. C'est l'être qui est relatif à un autre, tout entier relatif à un autre. Il est débile. C'est très joli cette expression d'Aristote, j'aime beaucoup ça. La débilité métaphysique du relatif, c'est ça? La débilité, il est toujours dégonflé. Il est toujours à plat, l'être relatif. Il est débile, il n'a pas de consistance en lui-même. Alors, il est relatif, dépendant. Aristote reconnaît donc qu'il y a un statut particulier pour le relatif. Il reconnaît qu'il y a un statut particulier pour la substance, un statut particulier pour le relatif. C'est très curieux. Quand vous regardez attentivement les catégories, vous voyez qu'Aristote a été très attentif à ça, qu'il a compris que le legetai du relatif, c'est toujours la moitié. On est relatif à un tout, à un autre dont on est la moitié. Je suis la moitié de quelqu'un. Donc, je suis relatif à un autre. Si je dis la moitié de ma part. Pensez à ça c'est tout de suite, très très immédiatement. Et que la moitié comme telle, dès que je suis en phase du relatif, le semblable, l'égal, tout ce qui est relatif est toujours relatif à un autre. Que l'être du relatif qui existe, il y a un être du relatif, c'est pas seulement le dire, le legetai, mais il y a l'être du relatif. L'être du relatif est un être très débile, très difficile à saisir. Et tout de suite l'exemple très simple, c'est que vous êtes à côté de quelqu'un qui pèse le même, qui a le même poids que vous. Vous avez donc, vous êtes égal avec lui, dans l'ordre du poids. Il disparaît. Vous n'êtes changé en rien. Et cependant, la relation d'égalité est supprimée. Donc la relation d'égalité, c'est rien du tout. Puisque l'autre disparaît, vous, vous n'êtes pas modifié, et la relation d'égalité disparaît. Donc, la relation, c'est rien du tout. C'est uniquement le legetai, c'est vous qui le construisez. Vous voyez les côtés très subtils de la relation. C'est très difficile. Et c'est pour ça qu'il y a eu des philosophes qui ont soutenu que la relation, c'était uniquement l'intelligence qui l'a réalisée. L'intelligence était capable de construire les relations, de mettre des similitudes, mais en réalité, il n'y a rien du tout. Allez un peu plus loin, l'amitié. Dans l'amitié, vous êtes relatif à un autre. L'ami meurt, l'amitié disparaît, et pourtant vous n'êtes pas changé. Ni dans votre intelligence, ni dans votre cœur. Ah, votre cœur est blessé peut-être, mais au fond, extérieurement, rien n'est changé. Oui, qu'est-ce que c'est que la relation? Être relatif à un autre, être dépendant de l'autre. L'autre disparaît, la relation disparaît, vous n'êtes pas changé. Il faut saisir ça, parce que là on saisit la débilité de du relatif. Parce qu'Aristote montre très fort ça. On comprend très bien que le philosophe de la substance comprend la débilité du relatif. Le philosophe de la substance est celui qui met en pleine lumière la débilité du relatif. Bon, alors, Aristote est le premier qui comprend le point de vue de la relation. Et qui comprend, du moins, qui parle de la relation. Au niveau philosophique, au niveau catégorial. Je prends ensuite saint Thomas, parce que je crois que saint Thomas apporte quelque chose de nouveau par rapport à Aristote. C'est toujours intéressant de voir ce que saint Thomas apporte de nouveau par rapport à Aristote. Ça, ce serait un petit traité très intéressant à faire, de la nouveauté de saint Thomas par rapport à Aristote, de voir d'où vient cette nouveauté. Parce qu'au fond, c'était le problème de Gilson, c'était le problème de Maritain, c'était le problème de Fabreau. Donc c'est le problème des thomistes actuels, ça. Des thomistes de notre monde d'aujourd'hui, vouloir montrer l'originalité de saint Thomas par rapport à Aristote, pour dédouaner saint Thomas d'Aristote. Alors c'est intéressant de voir l'originalité. Bien, ici il y a une originalité. Saint Thomas est le premier qui parle d'une relation de raison. Et c'est intéressant, parce que grâce à la relation de raison, saint Thomas répond à cette objection. Vous comprenez que, de fait, c'est très vrai, je suis à côté de quelqu'un, je suis relatif à lui, il disparaît, la relation disparaît, moi je ne suis pas changé. Ah, il y a des relations de raison. Il y a des relations réelles. Saint Thomas nous montre que l'être capable d'être uniquement une relation de raison. C'est le seul qui peut être comme cela, parmi toutes les catégories. Regardez toutes les catégories, vous verrez que la seule catégorie qui peut être une catégorie de raison, c'est la relation. Alors, il y a ce point de vue-là, qui est important à souligner. On essaiera de comprendre la différence entre la relation de raison et la relation réelle. D'autre part, saint Thomas, en tant que théologien,
va pousser le plus loin l'analyse du relatif. Et pour pousser davantage l'analyse du relatif, saint Thomas va regarder la relation. Alors, ça aussi, c'est intéressant, parce que vous passez du concret à l'abstrait. Aristote ne parle pas de la relation. Il parle du relatif. Et saint Thomas parle de la relation. Il faut être très sensibilisé à ça, je vous l'ai déjà dit, entre l'abstrait et le concret. Alors, la relation, c'est abstrait. Saint Thomas va nous parler de la relation dans certains traités théologiques. Et on pourra dire que tout son traité de la très sainte Trinité repose sur le point de vue de la substance et de la relation. Comme, je dirais, comme moyen philosophique dont il se sert. Quand il parle de Dieu en lui-même, il parle de la substance. Vous savez bien, un grand aspect que le père Garrigou-Lagrand disait avec beaucoup de force, tout le traité de Dieu considéré en lui-même dans un Thomas repose sur l'ipsum esse subsistant. Donc, c'est l'esse subsistance. C'est voir comment en Dieu la substance est son esse. L'essai de l'art. Comment en Dieu, acte et substance s'identifient. C'est ça l'acte pur. L'acte pur, c'est un acte qui subsiste en lui-même. Vous ne pouvez pas dire que vous, vous subsistez dans votre essai. Vous ne pouvez pas dire je suis. Regardez-moi, je suis l'être. Et à côté de moi, c'est le non-être. C'est une manière très élégante de regarder son voisin. Alors, à ce moment-là, le voisin, il est propre et liquide. Il est proche du néant. Parce que vous, je suis. Donc, il y a Dieu, mais Dieu a la délicatesse de ne pas dire je suis et tous les autres, c'est le néant. N'est-ce pas ? Non, parce que Dieu fait être à partir du néant. C'est juste inverse. C'est l'inverse de Sartre. Dieu, c'est l'inverse de Sartre. Quand Sartre a vu Dieu, je sais pas ce qu'il dit. C'est mon inverse. C'est juste inverse. Parce que la néantisation, c'est ça. La néantisation, c'est ça. Tandis que Dieu fait l'inverse. Il fait, à partir du néant, être. C'est merveilleux d'avoir les mœurs de Dieu, vous voyez. C'est de faire que votre voisin, il existe pour vous. Et que vous le regardez plus que vous. Vous le regardez en premier lieu. Dieu est ipsum esse subsistant. C'est très beau ça. Ça, c'est l'expression de saint Thomas. L'ipsum esse subsistant. C'est la traduction du théologien de l'acte pur d'Aristote. L'ipsum esse subsistant. Aristote parlant de l'acte pur, et saint Thomas parlant de l'ipsum esse subsistant. Donc c'est la substance. Dédé ou non. Et quand saint Thomas parle du Dieu trinitaire, ce sera la substance plus la relation. Voilà ce qu'apporte la révélation pour le théologien. Elle apporte plus la relation. On va mettre la relation dans l'ipsum et ses subsistances. C'est pas commode de faire ça. Hein. Et ça, c'est tout le mystère de la fécondité de Dieu.